my dismay.
Évidemment, ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer le maire de tout mon soutien. La ministre en charge des collectivités territoriales, Dominique Faure, a contacté ce maire. Ça montre que notre volonté de mieux protéger les maires, de répondre plus efficacement quand il y a des menaces, ça répond à une vraie problématique. Et donc avec Gérald Darmanin, avec Dominique Faure, on va continuer à renforcer notre action pour intervenir plus tôt, pour pouvoir soutenir les maires, pour repérer leurs difficultés et mieux les accompagner face à des violences dont ils peuvent parfois être victimes.
Qu'est-ce que ça dit le fait qu'il y ait des gens qui s'attaquent à un maire parce qu'il soutient la création d'un centre de demandeurs d'asile en France ?
Écoutez, ça montre qu'il y a une montée d'extrémisme dans notre pays et évidemment il faut qu'on soit très très vigilant sur ce sujet. L'extrémisme, il vaut des deux côtés et je pense qu'en apportant des bonnes réponses à nos concitoyens, et c'est ce à quoi je veux m'employer ici, la main dans la main avec les élus locaux, c'est comme ça qu'on évitera ces montées des extrémismes avec des situations inacceptables comme celles que vous avez mentionnées.
Salut, il est vendredi, on est 19h passé de un générique, un édito de Elisabeth Borne, Born Be Alive, et puis de quelques vieilleries, c'était quoi? Alors la tienne était plus longue que la mienne.
Oui, ça se précise, ça se confirme. À l'instant, donc, c'est la plus longue, c'était celle qui vient de se terminer. C'est une reprise de ABBA que vous n'avez pas identifiée, visiblement, dans le studio. Mais vous, peut-être, derrière le poste, c'était le morceau SOS, bien sûr, repris donc en 95 par Chris Knox. Voilà, c'est sorti sur un EP qu'il a sorti, EP One Fell Swoop Undubbed.
C'était pas mal Black Francis dans la voix.
Mmh. Ouais, ouais.
Et avant, c'était Slint, les héros des années 90. Premier album, Tweez, le premier morceau qui ouvre l'album, Ron. Voilà. Donc, avant de dire bonjour, parce qu'on a, on s'est briefé avant, on a un truc...
on a un conducteur, voilà. D'une minute, mais c'est un conducteur quand même.
Donc, ce soir commence à Rennes le Stonefest. J'ai pas la phrase d'accroche qui décrit le festival.
Le festival des cultures vidéoludiques qui revient aux libertés du 19 au 21.
Voilà.
Festival porté par l'association rennaise Troïde Combo. Ouais, moi j'ai taffé un peu, tu vois.
Alors, pour les jeunes qui nous écoutent, culture vidéo ludique, c'est jeux vidéo.
Voilà. Et... Ok, boum-moi si tu veux.
Et donc, à cette occasion, on devrait recevoir dans quelques minutes un des artistes qui joue ce soir à 22h au Liberté, qui répond au doux nom de Can Blaster, comme on dit avec l'accent parisien. Donc il devrait nous rejoindre, il est en route pour l'hôtel, depuis la gare, enfin je ne sais pas où, on discutera avec lui. On lui a demandé aussi de nous ramener une petite playlist de sa confection. Voilà, ça va mon Lulu ?
Eh ben ça va plutôt bien. Hein.
Tu as manifesté cette semaine ?
Dans mon coin.
D'accord. Gwendo, comment ça va ?
Oh bah écoute, ça va bien, bien, bien. Je confesse, c'est un légèrement pompette, mais ça me sied plutôt bien, je crois. Et bien en plus, si tu veux, j'ai commencé par une journée. J'ai envie de m'étaler un peu. Je peux.
Oui,
on va faire la place.
Je veux dire, si j'ai pas le droit, je prends le gauche. Donc
tu peux te répandre même.
Oui, je m'étale. Et donc j'ai passé une très très bonne journée parce que figure-toi que ce matin j'ai pu commencer ma journée par tondre ma pelouse, et quand je parle de ça, c'est au sens propre. Oui. Et après ça, j'ai fait la rencontre d'une petite chose absolument ravissante de 2,870 kg, si je dis pas de conneries, et de 48 cm. Et attention, 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 je parle d'un enfant.
Un enfant en plus,
attention,
c'est vraiment énorme.
Je parle d'un enfant, et donc c'est à cet enfant que je voudrais... Alors attention, chers auditeuristes, vous n'êtes peut-être pas habitués à ce type de morceau très... comment dire Iconoclaste, underground.
Touchy, non pas underground.
Touchy, provoque, mais disons que voilà, ce morceau est une dédicace à notre petite Suzy et à ses doux parents qui nous écoutent, je crois, derrière le poste. Bah, j'ai envie de dire, on voit Ludo, quoi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky.
Eh bien, vous êtes bien, sur Énergie BZH, 94 MHz. À l'instant, on vient d'écouter une petite voix montante du crotrock, rennais. Voilà, peu de doute qu'on la retrouvera très certainement sur la prochaine édition des Transmusicales en décembre 2023, donc Riri. Et voilà, Riri qui aurait pu avoir quelques heures de gloire, mais bon, bah, Chloé 1, Riri 0.
C'est Brianaz.
Ouais, bravo.
Il y a un auditeur.
Regarde bizarre. J'ai peur que peut-être que notre invité, s'il nous écoute, va peut-être renoncer. Ou alors il est fan, j'en sais rien.
Déjà que tu lui as dit qu'on était de gauche, alors qu'il a l'air de chatouiller. Alors qu'il a l'air de chatouiller le Star System.
Et alors, il y a plein de gens dans le. Alors déjà. Je pense pas qu'il chatouille de près, puisqu'on le connaissait pas avant qu'il vienne.
On le connaît toujours pas d'ailleurs.
Ouais. Et en plus, il y a plein de stars de gauche. Regarde Jean-Jacques Goldman, par exemple.
Ouais, ou Renaud.
Renaud, c'est alternatif. Ouais.
C'est un oscillateur oui. musical.
Il vient d'acheter une maison à Nantes, Renaud.
Paraît-il, ouais, paraît-il. C'est qui nous a raconté qu'il a bu un coup l'autre jour avec
Renaud a bu un coup.
Ah oui. Ouais. Ouais, oui, parce qu'apparemment il sort avec une nana plus jeune. Enfin, bref, tu sais, un truc un peu à la. Enfin, bref.
À la Jean-Luc Lahaye.
Plus rien ne m'étonne, mais je vais pas me mettre à chanter Lucine Sémilla. Ah non, c'est Tiken Jaffacoli. Plus rien ne m'étonne.
Non.
Bon, t'es... bref.
Et non, il y a Aurel San qui chantait ça, je crois.
Ouais,
mais si c'est Tiken Jaff, putain, mais. Oh, là, vous
mais non,
pas
c'est Aurel San.
Plus rien ne m'étonne.
Bah, je sais, je le sens.
Alors là, les gars, m'obligez pas à mettre Rihanna et Tiken Jaffacoli dans une même émission, mais je pourrais en mettre quasiment mon doigt coupé.
Mais tu sais, peut-être qu'à un moment donné, tu devrais faire ta propre émission.
Wow, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'on m'a déjà dit ça au boulot aussi, tu vois.
Oui, il y a plein de radios qui recherchent. Ouais.
Vous voulez que je m'émancipe, c'est ça?
Non, c'est quand t'as dit Sin Semilla, j'avais tout de suite pensé à ça.
C'est vrai que le studio d'à côté, ils ont l'air d'avoir quelques sarouels et des dreads, je pourrais l'intégrer facilement.
Mais non, mais dis pas ça, c'est Purple Rain, ils enregistrent une émission.
Ouais, bon, je sais pas, moi je juge au physique uniquement.
Oh, ah, j'espère qu'ils vont pas nous écouter, ils sont très gentils, tu sais.
On a dit, on n'a pas le droit aux moches. Est-ce que je profite de cette petite temps d'audience où vous m'acceptez encore, c'est-à-dire que la semaine prochaine je serai peut-être plus là, pour continuer de... Peut-être que je pourrais commencer par les brèves de la semaine.
Ah bah, vas-y, si t'es en verve.
Alors, dans les brèves de la semaine, la rumeur enfle dans le microcosme rennais. Guillaume aurait potentiellement des relations sexuelles avec sa co-animatrice. Eh bien non, messieurs,
tu
dames.
Tu parles de Ludo.
Ludo, c'est certain. Et avec sa co-animatrice, je le répète. Alors, messieurs, dames, si vous avez un problème avec l'amitié homme-femme, eh ben, je vous serais gré de... Comment dire, de revoir un peu vos copies à l'aune de, du postmodernisme et du post-MeToo. Et non, je n'ai pas de. Enfin, nous n'avons pas, à ce que je sache.
Un souvenir de
relations. Je dirais même, ne serait-ce que tactile. Tactile me paraîtrait déjà assez osé pour qualifier la relation qui non pas nous unit, mais nous rassemble. Et voilà, moi, c'est ce que j'aimerais qu'on soit aujourd'hui, des gens rassemblés autour d'une ouverture d'esprit nouvelle. Voilà, il y a un enfant qui vient de naître. Si on pouvait dépasser les clivages politiques, sexistes.
J'ai un début d'érection.
Bah, dès que je me mets à parler comme Born, ça l'excite. C'est pour ça que je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient.
Non, mais c'est quand
confus.
Il y a un enfant qui vient de naître.
On est en train de ne pas suivre du tout notre conducteur.
Ah mais moi, tu sais, moi le patriarcat, je le, tu vois, voilà, qu'est-ce que je lui fais à ton patriarcat, moi.
Je le prends, je le retourne.
Ouais, je tu vois, comme il faut, quoi.
Et t'avais une autre brève un peu plus...
Oui, le petit neveu de Brigitte, bah ça c'est univers.
Ah oui,
le petit neveu,
oui,
c'est la gueule.
Alors autant j'aime pas les macronistes, autant j'aime pas les macronistes, autant là j'avoue que lui avec sa petite gueule, avec ses, enfin franchement.
Ah j'ai pas vu sa petite gueule.
Sans déconner, quoi. Bah c'est un, tu vois Jean Sarkozy, bah tu lui coupes les cheveux, tu le teins en châtain, et c'est à peu près la même. Mmh. Mais pauvre chaton, quoi.
Non,
c'est
mais
pas de
frapper,
sa faute.
Frapper les gens, c'est mal.
Ouais.
On le dira jamais assez. Ouais. Est-ce que vous condamnez les violences, Gwendo?
Alors, écoutez, je condamne. Alors, comme on ferait à François Ruffin, eh bien, écoutez, oui, Guillaume, je condamne fermement toutes les violences.
Mais
je dois dire que autant je peux m'émouvoir d'une violence gratuite à l'encontre d'un jeune homme peut-être trop bien né, autant je m'attriste que le battage médiatique se concentre principalement sur ce fait divers malheureux certes, mais n'appuie pas plus sur le maire de... Que je dise pas de bêtises.
De
Saint-Brévin-les-Pins, dont des groupuscules fascistes ont cramé la bagnole, la baraque... La baraque, hein, je veux dire, on parle pas juste d'un petit gamin tabassé sur un, on parle vraiment d'avoir cramé et d'avoir fait des mesures d'intimidation à l'encontre de ses enfants, de sa famille, ce qui fait qu'un élu de la République, quoi qu'on en pense, est aujourd'hui se voit contraint de démissionner. Et voilà, disons que une bonne républicaine qui se respecte, je dirais, on est quand même face à un deux poids, deux mesures. Et je ne parle pas de la différence entre la taille de mes seins et de mon cul.
Drôle de conclusion. Elle t'appartient.
Sans transition.
Comment mettre mal à l'aise
ouais.
un plateau. Toi, tu parles pas beaucoup, mais t'as l'air très gêné.
Ouais, parce qu'on n'a pas présenté un quatrième larron qui n'est pas habitué à venir, donc qui reste loin du micro pour l'instant.
Ouais, ouais. Bah alors, si tu veux parler, par contre, c'est dans le micro.
Voilà, ouais, c'est ça.
Qui a rien préparé encore.
Mais nous non plus. Bois un coup. Donc, on revient dans les clous, on revient dans le patriarcat, Gwendo. Le Stunfest, quand même.
Bah, Stunfest.
Ça commence aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il y a de patriarcal dans Stunfest? Don Stunfest. Et una festival muy bonito.
Qui commence.
Que
s'appelle Orio Kezak.
Que s'appelle Orio. Bah non, mais que vous dire sur le Stunfest? Bah, amateur. Ça commence ce soir. Amateur, juste curieux ou curieuse. Amateur RIS, curieux, curieuse ou professionnel ou assimilé du chant, du jeu vidéo. Voilà, le Stunfest, moi ce que j'aime dans le projet porté par l'association Rennes 3D Combo, c'est d'avoir effectivement su concevoir un projet artistique et culturel qui combine, on va dire, l'appétence pour ce médium, cette forme de création, parce que c'est comme ça qu'il le revendique, cette forme de création qu'est le jeu vidéo, comme un art finalement, ou en tout cas un art et une culture à part entière, qui rassemble certes on va dire un ensemble de clichés tels qu'on peut les imaginer, mais qui aussi s'ouvre en fait à des axes aussi divers que le sport, la sociologie, le cinéma, la musique, bien évidemment, et qui convoque en fait un ensemble de corps de métiers, de compétences et de pratiques et ou de droits culturels, comme elle aimerait à dire Guillaume.
Punaise, on dirait que t'es ChatGPT.
C'est ça le problème des THPI en fait, c'est que parfois ça sort un peu comme une gueule de bois après un Beaujolais nouveau, et puis parfois c'est d'une clairvoyance à toute épreuve. Non, c'est juste que certes c'est une association amie, mais c'est aussi des gens dont je respecte le positionnement.
Ouais. Et puis ils s'abusent.
Le positionnement. Et voilà, c'est un festival en fait assez pluriel dans lequel vous allez retrouver du bon gros geek comme de l'amateur et du curieux, bien évidemment, qui dit association font que ils s'inscrivent aussi en faux de l'industrie du jeu vidéo en soutenant un ensemble de labels, d'éditeurs indépendants. Et donc vous pourrez y voir à la fois des conférences, des rencontres, des tournois, des salons d'éditeurs, de jeux indépendants.
Il y a des trucs super drôles.
Des concerts.
Alors moi j'y suis pas allé ces dernières années, mais j'y suis allé une fois. Mais cette année il y a des trucs qui sont nouveaux pour moi, mais qui sont pas nouveaux pour eux, qui ont l'air très amusants. Il y a un trophée des seniors. C'est le, je sais plus comment ça s'appelle, quoi. C'est un truc silver machin, mais donc c'est des personnes âgées qui jouent à un jeu. En l'occurrence là, c'est un jeu de bowling.
Je pense que c'est encore silver.
Ouais, c'est un jeu de bowling cette fois-ci. Donc ils s'entraînent depuis quelques mois, et donc là, ça bosse en binôme, quoi, des binômes de seniors. Et donc voilà, l'équipe qui sera vainqueur au Stunfest sera qualifiée pour la finale nationale cet automne. Moi j'ai envie de voir ça, par exemple. Des seniors en train de jouer aux jeux vidéo.
C'est ton côté gérontophile.
Bah viens à la maison.
Ouais. Excusez-moi pour ce rire gras et lourd, c'est le reliquat du patriarcat qui s'exprime à travers ma gorge.
Et il y a aussi un truc qui m'a intéressé, c'est, alors je ne vais pas savoir le prononcer, mais c'est la finale de la Coupe de France de Géogastre.
Effectivement, tu es...
On ne sait pas s'il est bourré ou s'il essaie de faire un mot.
Non, mais ça tombe, ça se prononce comme ça.
Tu peux l'appeler.
Géo, pardon, je suis en train de mourir. Un petit Roland de Covid. Géo, et après c'est G-U-E-2-S-R.
Bon, tu le prononces comme ça.
Démerdez-vous. Ouais. Et donc ça, c'est, ça a été lancé par une asso rennaise qui s'appelle MGAN. qui organise la Coupe de France de ce truc-là. Et donc, en fait, il s'agit de se retrouver le plus précisément possible sur une carte Google Maps. Bon, dommage que ce ne soit pas au moins OpenStreet, oui. Mais bref. Après avoir été placé par hasard. Mmh. Et donc, il y a une compète nationale de ça.
Rigolo.
Ça vous branche ?
Ouais.
Mais carrément.
Ah, c'est notre
on
invité.
On me dit dans l'oreillette que ça sonne.
Et tu continues à faire ta chargée de com de trois combo et moi je vais lui ouvrir.
Mais carrément, sachant que je suis pas payée, mais bon, moi j'adore ça, être mal payée dans la culture. Donc, que vous dire, si je vous disais qu'il y avait une programmation de concert aussi, donc ça commence ce soir aux Libertés. Alors, je vous confesse ne pas avoir la prog sous les yeux pour la bonne et simple raison que ça capte mal dans les studios de Canal B. Mais l'arrivée, l'invité qui arrive, me semble-t-il, incessamment sous peu, donc Can Blaster, c'est ça ?
Le blaze
qu'on lui attribue. Can Blaster, on aura l'occasion d'en parler à l'antenne, mais c'est quelqu'un qui fréquente ou en tout cas fait partie du Club Cheval qu'on rapproche de Bromance et consorts, qui a pu toucher sa bille visiblement du côté d'un ensemble d'une scène électro bien connue avec des noms tels que Geza Felstein, Parawan. J'en oublie certainement, mais peu importe, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisqu'il s'agissait des années 2012. J'essaie de meubler.
Non, mais on va mettre un peu de musique.
Est-ce que si je meuble un peu et que je te dis le titre que je veux passer à l'antenne, parce que moi, finalement, il s'avère que ça fait quand même pas mal de temps que je n'écoute plus d'électro au sens propre, mais ça me faisait penser d'accueillir ce mec-là qui est quand même moins dans le giron éditorial de Frisson, même si c'est peut-être bête de dire ça étant donné la dimension hétéroclite et iconoclaste de l'émission, mais je me serais bien fait un petit Mondkoff, M-O-N-D-P-O-T, enfin tu vois, voilà, avec un titre imprononçable, Moon's Throat, donc la gorge de la lune, ce qui me paraît à la fois vicieux et incompréhensible, du Mondkoff. Donc c'était un mec qui s'appelait Paul Régimbaud, qui en 2010 devait pas avoir plus de 25 ans, qui arrivait comme un cheveu sur la soupe sur la scène électro française, et qu'on a très vite comparé à un énième, alors tu me diras, tous les labels de musique pour essayer de vendre leur staff, et les qualifie de Brian Eno de la scène française. Mais il s'avère que voilà, ce petit Paul Régimbaud, la seule et unique fois que j'ai pu le voir sur scène aux alentours des années 2010-2012, m'avait un peu cloué au poteau avec un visuel qui se faisait relativement peu à l'époque du collectif Trafic. Je vais pas vous dire que c'est une grosse balle, on aurait pu quasiment le classer dans les vieilleries, mais pour meubler, même si j'adore parler, ça me semble pas trop mal d'ici à ce qu'on reçoive notre invité, Inch'Allah, Can Blaster. Yeah. Bon bah ça déconne, donc mais ça déconne, mais il n'empêche qu'il est quand même vendredi.
Vous êtes bien sûr
qu'on est bien sur frisson. Il est 18h40 au compteur.
Arrête de dire l'heure tout le temps.
19h40.
On s'en fout de l'heure qu'il est.
Pardon ?
Non, je dis arrête de dire l'heure tout le temps.
Mais je sais pas, c'est Guillaume qui me fout la pression patriarcat de merde. Mais par contre, au milieu de toute cette merde, on a le plaisir d'accueillir désormais dans nos studios Can Blaster. Bonjour, Can.
Bonjour.
Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos studios.
Qui était extrêmement loin du Stonefest.
Bah, c'est ça,
compliqué,
c'est
hein.
Ça. Bah, on a un peu culpabilisé, je t'avoue. Voilà, c'est vrai que le Canal B aux Libertés, il y a quand même, une batterie de CRS et de.
Ouais, je sais pas ce que vous avez dit à l'antenne, mais.
Bon nombre de saloperies avant que tu n'arrives, mais on comptait justement sur toi pour rétablir l'ordre. Donc je sais pas si mon acolyte, qui n'est pas mon mec, je précise, Guillaume, toujours pas.
Oui, il faudrait que tu expliques à Guillaume.
Il y a, hein, y a des rumeurs locales, tu sais ce que c'est les radios associatives, je me permets de te tutoyer. Hein.
Bien sûr.
Et donc voilà, on est ravis d'accueillir Ken qui joue, si je ne dis pas de bêtises, à 22h ce soir aux Libertés dans le cadre du festival Stunfest.
Exactement, j'ai fait un DJ set avec Lime68K qui sera VJ avec moi.
Et tu nous as déjà donné quelques leçons de prononciation. Donc c'est GeoGuessr.
Voilà, Géo, la géographie, et Guessr, ouais. La devinette.
Ouais. Non mais voilà. Géo et Guess, je l'avais, mais ce R majuscule, ça me perturbe. Dès qu'il y a des chiffres...
C'est R.
Des...
Exactement, ouais. C'est les Anglais, c'est okay. Les Américains.
Et donc toi, tu connais ce jeu ?
Un petit peu, ben justement la dernière fois que j'avais joué en live dans des conditions comme ça, c'était dans un festival qui s'appelle Speedon. C'est un festival où c'était 72 heures, je crois, de speedrun, donc des gens qui finissent les jeux vidéo le plus vite possible. Mmh. Et il y avait un tournoi dedans de GeoGuessr et le mec était vraiment très fort, c'était impressionnant. Il y a plusieurs modes dans le jeu et il y avait un des modes vraiment, le truc apparaît une demi-seconde à l'écran, clignement de l'œil, et il arrivait à dire « Ah ouais, c'est là, c'est je sais pas quoi, au Portugal, c'est bluffant vraiment. »
Un match pays sans doute.
Parce que toi, en fait, t'as pas été programmé par hasard du tout, puisque t'as commencé en faisant de la BO de jeux vidéo.
Ouais, c'est ça. C'était il y a très longtemps. C'était au lycée, en fait. Et je faisais, c'est assez marrant, une musique pour les jeux de danse. Tu sais, où il y a le tapis au sol sur les bandes d'arcade.
Ouais.
Et voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé. En fait, c'est un peu comme Stunfest, tu vois, j'étais dans une asso qui s'appelait M Games, donc Music Games. Et c'est que les jeux de DJ, les jeux de guitare, Guitar Hero et tout ça, c'était une mode à l'époque, si tu te souviens. Et je me suis retrouvé de fil en aiguille, vu que je faisais de la musique, à participer aux jeux vidéo. Et donc voilà, c'était une de mes anciennes vies.
Et donc, t'as été repéré par. L'industrie du jeu vidéo, parce que c'est devenu professionnel rapidement ou...
C'est beaucoup plus tard, en fait, quand j'ai commencé à faire de la musique de club avec mes acolytes de Feu Club Cheval à l'époque, où là ça a pris, mais c'est le fait que je me sois plutôt fait la main sur des musiques de jeux vidéo qui a fait que derrière, pour la musique de club paraissait assez facile, quoi. Voilà.
Ok, d'accord.
J'ai noté dans ta bio, comme dirait Guillaume, que de Club Cheval, tu es aussi passé par la création sonore, en tout cas musicale, d'un court-métrage qui, si je ne m'abuse, s'appelle Wild Horse. Je me suis dit qu'il y avait quand même un fil d'Ariane.
Ah bah ça c'est sûr. Hein.
Équestre.
Wild Horses couldn't drag me away. Donc, comme dit Mick Jagger.
Est-ce que comme t'es comme ces... Personne, c'est une jeune fille un peu flippante qui adore faire de l'équitation, ou non, c'est plutôt sur la dimension rythmique de l'animal, comme j'ai pu lire dans une de tes interviews.
C'est sur la dimension rythmique beaucoup. D'ailleurs, il y a un de mes morceaux, bon, on parle de ça d'il y a 15 ans, hein, mais qui était basé uniquement sur des pas de chevaux, une version un peu techno de ça, qui avait bien marché. Et c'est mon père qui faisait de l'équitation, en fait, ça vient plutôt de là. Moi, je suis plus quelqu'un qui regarde et qui écoute que quelqu'un qui est en pratique.
Ça fait sens, hein, quand on sait que Gaspard Mudrich et consorts, tu vois, ont développé la question de l'image par image, notamment sur les mouvements de trot de cheval,
c'est vrai.
J'ai envie de dire. La boucle est bouclée.
Et donc, t'as commencé par le jeu vidéo, t'es allé vers le club et t'as monté Club Cheval, enfin, t'es un des membres fondateurs.
Ça.
Et puis, t'as sorti quelques EP, je crois.
Ouais, à l'époque, c'est ça. C'était un peu le chapitre précédent, on va dire. Maintenant, ça fait un moment. Mon dernier EP, c'est en 2016, je crois. Donc, ça fait quand même 5 ans maintenant. 7 ans, c'est ça. Ouais, c'est énorme.
Et t'as quel âge? T'as à peu près 50 ans ou...
Ouais, pas loin, pas loin.
Non, c'est pas vrai.
Non, un peu moins.
Tu ressembles... Alors, ça sera...
Je ne vieillis pas, moi. J'ai le portrait qui vieillit à ma place.
Dorian, ok.
Voilà.
Dorian Grejafenstein, c'est ça?
Oh là.
Tu ressembles un peu au jeune Bill Gates.
Oh là là, je sais pas si c'est un compliment ou pas. Hein.
Non, pas du tout.
Aïe aïe aïe. Moi on me dit des fois Paul Dano.
C'est qui?
C'est là, un acteur, le gars qui était dans Little Miss Sunshine.
Exactement, bah tu vois, exactement à lui que je pensais quand je t'ai googlé, parce que je t'ai googlé, bien évidemment, je suis donc parmi. Donc j'ai vu que tu avais une fiche Wikipédia, donc là je me suis dit, ok. Le gars, une wish...
C'est lui qui l'a écrite, peut-être.
Ou sa prod, mais va savoir. Et après, je me suis dit, bon, ok, Arte Concert. Et donc, j'ai vu qu'il y avait eu un changement capitulaire assez notable entre deux vidéos. Et je me suis dit, putain, mais effectivement, tu es exactement cet acteur-là. Redis-moi le
Paul
nom.
Paul Dano.
J'en ai parlé, tu vois, à la mater tout à l'heure.
Donc, tu préfères Paul Dano que Bill Gates comme
référence. Quand même, oui. Même si j'aime beaucoup les ordinateurs, je pense que... l'idéologie véhiculée, je préfère être proche d'un acteur que...
Non mais bien sûr, mais regarde ça.
Mais oui, c'est lui. Et
c'est marrant, non?
Dans la présentation...
Vrai, ouais. Je vous invite à googler Paul Dano sur... pour vous faire une petite image de... Parce que comme on n'est pas à France Inter et qu'on n'a pas de transmission vidéo, je vous invite à googler Paul Dano sur internet pour vous figurer ce à quoi pourrait ressembler notre invité.
Ou à venir ce soir à 22h.
Oui,
carrément, parce que on soutient le monde associatif quand même.
Et puis dans la présentation que fait le Stunfest de ton concert, il est évoqué aussi cet album, ce premier album qui devrait sortir l'année prochaine, c'est ça?
Ah oui, là c'est fini, on est plus dans ce qui est développement, clip, image, etc. Mais l'album est enfin fini, j'ai bossé pendant plusieurs années dessus. Et alors...
plusieurs années?
Ouais.
La vache.
Et du coup, avant l'album, il y aura peut-être quelques petits trucs qui vont sortir. C'est à peut-être là, d'ici un mois, quelque chose comme ça, des petits amuse-bouches, quoi. Mais tant que c'est pas... gravé dans la roche, on va dire, je n'en parle pas. Voilà.
D'accord. Ok.
Attends, c'est moi ou tu viens de citer.
Peut-être.
C'est
quoi cette citation?
Gravé dans la roche.
C'était. Comment il s'appelle ce groupe? Sniper, non?
Gravé dans la roche. Putain, les gars, quoi.
C'était il y a quelques années aussi.
Pour les 90s. Non, mais vous êtes trop vieux, vous
non,
deux.
Non, mais
là,
ça va, on connaît Sniper.
On vient de vous OK boomer avec Cannes, là. Alors, d'une force.
Oh, les jeunes, ils vont faire chier. Et Ludo, tu t'en sors avec l'informatique?
Oui, c'est bon. Oui, on a eu un souci tout à l'heure, mais c'est Spotify.
Compliqué, hein.
Mais c'est bon, j'ai tout récupéré. Tout va bien, on peut commencer par écouter un de tes morceaux, un remix que tu as fait pour Paravan.
C'est ça. En fait, on était beaucoup dans cette clique dont vous avez parlé tout à l'heure avec Paravan, Gezafelstein, Brodinski, etc. Et il se trouve que chacun a pris un peu ses chemins à gauche à droite, mais que le label qui va sortir mon prochain projet, c'est le même que celui qui a sorti le projet de Paravan, qui s'appelle Animal 63, qui sort un autre projet qui s'appelle The Blaze aussi.
C'est le chemin de gauche ou de droite?
Il faut aller en live pour regarder, mais à mon avis, on est... dans un chemin quand même pas okay. trop il y a un peu de voilà.
Fini cette phrase.
Ah non, on l'embarrasse. Non, mais on t'embêtait avec la gauche et la droite.
Ouais, j'ai entendu. Ouais.
Déjà, c'est notre truc. Et quand
j'ai écouté un peu le début de l'émission, j'ai cru comprendre.
Ouais, quand j'ai dit à Ludo que t'avais apparemment filé un titre à Kanye West, ou je sais pas, ou produit un titre, je sais pas.
C'était une ancienne vie, c'est pareil. Hein. Il y a prescription maintenant. Hein.
D'accord.
Mais non, ça, c'est des histoires qui arrivent. En fait, on bossait pour un artiste. Et maintenant, tu vas me justifier.
Ken Blaster était un très bon musicien avant de faire des choix funestes.
Ça arrive de temps en temps, surtout dans le rap. On bosse sur un projet pour un album d'un artiste. L'artiste s'appelait Theophilus London. Et la façon dont bossent les rappeurs, c'est qu'ils font, je sais pas, 50, 60, 70 démos. Puis à un moment, vient le moment de faire l'album et ils choisissent les meilleurs trucs. Et il se trouve que de toutes les démos de l'album de ce gars-là, Kanye West avait écouté, il voulait faire un featuring et il a choisi ce morceau-là. Donc c'est pas un morceau directement de Kanye West, c'est un morceau Voilà. Mais après, pour bon, je vais pas, on va pas rentrer dans ces débats-là, mais même si il a des choix politiques extrêmement discutables, sa musique reste quand même vraiment exceptionnel dans le dans les avancées technologiques. Voilà.
C'est pas toi qui avais dit qu'il fallait être gentil avec l'invité ?
Mais je suis hyper gentil.
Non, mais alors c'est une autre question par contre, c'est le dans la temporalité, c'est-à-dire si t'as bossé à un moment avec quelqu'un qu'il était respectable et qu'à un moment il vire complètement, en sucette quoi. Est-ce que du coup, comment tu te positionnes par rapport à ça ? C'est un questionnement qui est
intéressant. À mon sens, si je peux me positionner, peut-être que je vais me faire taper demain, mais tu n'es pas effectivement responsable de ce que la personne allait devenir. Donc, à partir de là, la question ne se pose plus. On est au-delà du débat, faut-il différencier l'homme du nazi ?
Et l'homme du nazi. Et c'est un débat qui se pose particulièrement quand on bosse avec des rappeurs, parce que les comportements, les casseroles, tout ça, c'est des choses qui des fois mettent des années, beaucoup de temps à sortir. Et aussi, il y a des gens juste qui pètent des câbles, en mode drogue et tout. La mentalité change complètement. Donc,
pas qu'en rap.
J'imagine. C'est un milieu particulièrement prône. C'est des cultures de là où les gens viennent aussi, je pense.
Moi-même, je me suis déjà lavé avec du gel de chouchouaïa. Donc tu vois, je te jette pas la pierre.
Ah ouais. Bon.
Ok. Après, très bon lancement ça.
Pour défendre Ushuaïa, il y avait la musique de Deep Forest dans la pub qui était vraiment bien. Et Carl Jenkins, Kamaya aussi, qui était remarquable.
J'ai écouté un Affaire Sensible aujourd'hui sur le Grand Bleu. Fabrice
par rapport aux dauphins, ils sont des violeurs.
Ils ont dit les dauphins sont des violeurs. Mais ça, c'est Aurel San qui l'a dit. Mais
basique.
Toi-même, tu sais. Bon, on va écouter un peu de...
Donc, on va écouter Parawan, remixé par Ken Blaster, notre invité de ce soir.
billet, toujours frisson, toujours Canal B, la meilleure radio du monde, après Europe 1. On est en studio avec Ken Blaster qui joue ce soir au Stunfest, le festival organisé par Troyes Combo. Et là, on vient de passer le dernier stage, quoi, juste avant le boss.
Exactement, c'est quand on était invincible, tous les ennemis sont morts d'un coup, quoi.
Ouais, ouais. C'était très jeu vidéo ce morceau-là. Tu nous as pas donné le titre.
Alors bah c'est un hommage. Hein. C'est Yellow Magic Orchestra qui est l'ancien groupe de Ryuichi Sakamoto qui est décédé il y a pas longtemps.
Tout à fait.
Et c'est assez dingue de se dire que ben nous on avait Jean-Michel Jarre, les Allemands avaient Kraftwerk, et pour les Japonais c'était ça le groupe électronique phare des années 80, quoi, parce que c'est vraiment le même statut. Et je pense que ça explique beaucoup pourquoi la musique de jeux vidéo à l'ancienne est comme elle est, avec toutes ces mélodies qui sont hyper actives, qui sont très, très
héroïque,
rapides. Ouais, c'est
héroïque,
ça. Ouais. Tout à fait, ouais, il y a un truc, ouais, on va battre le boss, quoi, comme tu dis. Ouais. Et eux, ils ont beaucoup œuvré en fait pour la musique de vidéo. Donc Harumi Osono, qui est l'un des trois membres de Yellow Magic Orchestra, le seul qui est encore en vie du coup à ce jour. Et ça a été le premier à dire. Enfin, en fait, tu vois, la musique de jeux vidéo, c'était hyper décrié. C'était de la fausse musique pour les gens à l'époque, quoi. Et c'est le premier qui a dit non, bon, pour moi, c'est de la vraie musique. Il y a de la recherche dans la mélodie, c'est intéressant. Et il a fait le premier label et les premiers vinyles que tu pouvais acheter de musique qui venait des bornes d'arcade dans le milieu des années 80, en fait. Okay. Il s'est beaucoup battu pour ça. Mm. Voilà. Donc je me disais que ça faisait une petite. Voilà, vu qu'il y a le Stunfest à côté, ça nous permet de.
Mais transition parfaite.
Exactement.
Transition parfaite sur l'objet du Stunfest qu'on a déjà défendu, me semble-t-il, il y a quelques minutes, en disant preuve en est que on peut considérer le jeu vidéo comme étant un art à part entière, avec justement ces différents embranchements de créatives qui vont du jeu vidéo à la vision cinématographique, à la notion de réalisateur, qui ne démérite pas par rapport à l'audiovisuel classique, ou en tout cas à la production cinématographique, de monde immersif, comme on aime à l'appeler aujourd'hui.
Je pense même que récemment, ça ne prouve pas que c'est de qualité forcément, mais les budgets globaux de jeux vidéo ont dépassé dans les 5 dernières années ceux du cinéma. Alors
ouais.
C'est quand même énorme, quoi.
En préparant l'émission, je lisais l'espèce d'édito du Stunfest, et ils le rappellent quand même, ils font un appel à leurs spectateurs et aux viewers pour des dons. Ils ont, voilà, il y a tout un délire merchandising, etc. Et ils disent trois choses qui sont assez frappantes. C'est donc, ils ne peuvent pas faire de mécénat. Et la réponse de l'État, c'est le jeu vidéo n'est pas une œuvre de l'art et de l'esprit. Le deuxième truc, c'est la programmation du festival ne relève pas majoritairement du spectacle vivant. Donc, ils ne peuvent pas faire des cachets d'intermittents.
Hein.
Et le troisième truc, c'est le battle de danse, parce qu'il y a un battle de danse cette année sur du Street Fighter, je ne sais pas combien.
Ouais, c'est demain, je crois, ouais.
Ce battle de danse et jeux vidéo ne semble pas relever de la création artistique, donc pas éligible à un soutien public. Quoi.
Donc, ce n'est pas tout à fait vrai, mais ça a été la première réponse.
Mais disons que c'est sur leur com. Hein.
Ça a été une des premières réponses faites à, et effectivement il a fallu qu'ils enlèvent le terme jeux vidéo de la plupart de leurs argumentaires, puisque finalement la focalisation étatique est aujourd'hui à l'heure des ce qu'on appelle communément les réalités immersives, et en tout cas les mondes immersifs, aka le métaverse. Ce qui est en soi un terme très galvaudé, parce qu'on pense souvent, quand on parle de métaverse, on pense à Meta, l'entreprise Meta. Et
tout cet univers un peu NFT et tout, alors que c'est pas
exactement
forcément ça, quoi.
Alors qu'en fait c'est complètement décorrélé, c'est-à-dire que ce qu'on qualifie de métaverse, c'est finalement un monde virtuel qui préexiste de loin à l'entreprise de Mark Zuckerberg, et dont Meta n'est qu'une partie de l'entreprise, et qu'en fait il n'y a pas un métaverse, mais il y a des métaverses, comme si on disait il y a un internet qui appartient à une entreprise. C'est un non-sens dans le verbe et dans l'énonciation. Mais effectivement, la focalisation étatique est à cet endroit-là.
C'est ce qui les arrangerait, en tout cas. Ce qu'on essaye de faire qui n'arrive pas.
Ouais, mais sans réponse, mais en tout cas, de la part du ministère de la Culture française, il n'y a pas de réponse à dire dirigez-vous vers la question, notamment de l'endroit du CNC, qui soutient initialement l'audiovisuel et le jeu vidéo. Dirigez-vous vers la question des mondes immersifs, au sens pluriel, ce qui englobe la RA, VR, XR, donc...
On comprend rien de ce que tu
alors,
dis,
Alors, je décrypte réalité augmentée, réalité virtuelle et réalité mixte. Et monde virtuel, et ce qui en fait est globalement un peu à non-sens, parce que c'est des technologies qui préexistent à l'invention du métaverse de Mark Zuckerberg.
Mais il n'a rien inventé, lui.
Oui, enfin bref, ne me coupe pas. Et ce que je voulais dire par là, c'est que l'obsession est faite à cet endroit-là, alors qu'en fait, beaucoup de spécialistes du domaine diraient ben, en fait, on aurait plutôt à faire de s'intéresser à la question de l'intelligence artificielle dans le champ de la création artistique, que ce soit au niveau visuel ou sonore. Ça se trouve à plein d'égards. Alors, au niveau visuel, c'est peut-être plus évident avec des logiciels comme Midjourney ou DALL-E qui sont dans le champ de la génération de la production visuelle. Mais pour autant, on sait que aussi au niveau de la production musicale, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, Can, sur la question de l'intelligence artificielle.
Moi, un petit peu, et ça commence à se développer effectivement de plus en plus dans notre métier, même si c'en est encore au stade du balbutiement et que c'est bien moins développé que dans l'industrie de la... écrite avec ChatGPT, pardon, à côté.
Tu me parlais de prononciation
ouais.
Tout à l'heure.
Ah bah ouais, là, je me suis fait avoir là, mon propre jeu là. Et de l'autre avec Midjourney, Stable Diffusion, etc. Moi, je veux bien répondre, mais d'abord, j'aimerais bien votre avis à vous, si ça vous dérange pas, qui avait l'air un peu plus engagé que moi de manière générale. C'est quoi votre avis sur l'intelligence artificielle de manière générale? Dans la musique, on va dire, du peu que vous avez entendu. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des trucs comme ça ou non? Pas du tout.
Je crois que Pascal Obispo a déjà fait 5 albums comme ça.
Ah ouais, c'est ça. Fan 2, fan 3, fan 4 et fan 5.
Moi, j'ai deux cas de figure. En fait, du moment où on a commencé, en fait, préexistant à l'intelligence artificielle, il y avait la question de la blockchain. La blockchain qui semblait être un nouvel espoir d'Internet qui correspondait plutôt à l'image des pionniers d'Internet. C'est-à-dire une dimension libertaire assez affirmée et qui pour autant respectait toute la logique des droits d'auteur, mais qui très vite s'est retrouvée finalement reprise par le marché, comme c'est souvent le cas en fait dans les logiques des précurseurs des années 70 ou LSD d'Internet qui pensaient à la question de la méta-intelligence ou en tout cas de l'humanité augmentée telle qu'elle aurait pu être. Et de ça, la blockchain est devenue, dans les dérives qu'on connaît à l'heure actuelle, la question du NFT. C'est-à-dire, à mon sens, on va dire le champ du signe du capitalisme. Ça, c'est une chose. Parce que finalement, on ne parle rien de moins que de la question de la spéculation et donc du marché de l'art à l'heure...
Ouais, c'est une autre forme de...
Pour moi, c'est un mimétisme. Donc, il n'y a aucune intelligence collective par rapport à ça. C'est... un mimétisme numérique du marché. Maintenant, si on parle de la question de l'intelligence artificielle, effectivement, on pourrait avoir une approche un peu technophobe de la question et qui est très alimentée par tout l'imaginaire science-fictionnel. Et j'aime beaucoup aussi le... Merde, j'ai oublié son nom, je suis deg. Tu sais le bouquin que je t'ai offert sur... Ah putain, il l'a pas lu, cet enfoiré.
Marc Fischer.
Non, Alice, j'allais dire, c'est pas Alice Coffin, c'est Alice.
Le club des cinq.
Bref, c'est l'utopie radicale. Je suis navré, j'ai oublié le nom de famille de cette meuf.
Mais je l'ai pas encore lu.
Ouais, shame on you. Bref, j'ai assisté
je l'ai pas lu non plus.
Il y a une semaine de ça à le bouquin d'une nana qui s'appelle Alice quelque chose, mais qui en tout cas a écrit un bouquin qui a l'air non seulement facile à lire, mais édifiant aussi sur la question de l'utopie radicale. Et son approche, c'est de se dire d'arrêter d'opposer la question utopique et dystopique. Parce qu'elle fait, en gros, l'utopie est quelque chose qui va, un futur positif qui va advenir, l'utopie est un futur négatif qui va advenir. Et son postulat, c'est de se dire qu'en fait, on est déjà en dystopie. Et ce qui m'intéresse dans le cas de l'intelligence artificielle, au-delà de la dimension freak out de la chose, c'est comment certains artistes, designers, créatifs, créatives s'emparent de cette question-là pour dire comment recréer, retravailler avec l'intelligence artificielle plutôt que de craindre sa propre extinction.
Carabédian, Alice Carabédian.
Alice Carabédian. Mais je te remercie. Merci parce que c'est une femme assez brillante et je te remercie de reciter son nom à l'antenne. Pardon, je mange des chips en même temps.
Oui, ouais. Oui, là par contre, c'est moche.
Patriarcat. Ça, ce que vous entendez, c'est le reliquat. Toi, c'est la lame. Toi, c'est l'espèce de rebut de patriarcat qui vient me dire comment, quoi dire et quoi non, penser.
Normalement, en radio, on mange les chips pendant qu'on écoute la musique.
Comme je ne voudrais pas monopoliser. Comme je ne voudrais pas monopoliser. Ah, tu vois qu'on a du mal avec l'articulation, ouais, ça. Hein,
c'est bizarre. Hein.
Et je voudrais pas monopoliser parce qu'il est déjà 12 et ouais, que t'es quand même notre invité, ouais, et que c'est quand même à toi de parler.
Non,
bref,
non,
disons, juste pour finir, ouais, je citerai un mec qui s'appelle Étienne Mineur. Étienne Mineur, qui est un designer qui a développé partie des brevets qui permettaient de gérer les interfaces tactiles entre papier et écran. Et qui, justement, lui, loin de la technophobie ambiante sur l'intelligence artificielle, dit en fait, il y a moyen de composer avec cet nouvel outil. Parce que finalement, si on s'écarte de la dimension dystopique et science-fictionnelle, il y a quand même moyen de considérer ça comme un outil. Comme j'imagine, toi, Can, tu as dû découvrir à un moment des médiums qui te permettaient de faire de la musique, là où avant c'était l'apanage d'une partie de nantis, ou en tout cas de gens qui avaient les moyens de se payer des outils pour faire de la zik. Et je me dis, détournons en fait.
Détournons, ça c'est une bonne idée.
Soit à la hauteur réponse.
De la réponse. Moi j'ai un petit peu, je commence à mettre le doigt dans la question, on va dire. J'ai été approché par une compagnie pour faire un peu des recherches, des trucs avec des IA, mais c'est en mode tout est NDA, tu sais, tu peux pas trop en parler, etc.
Est-ce que tu peux expliquer ce que tu viens de dire ?
NDA, c'est tu signes un contrat qui fait que si tu en parles à la radio, on t'attaque en justice.
Ok, parlons-en.
Voilà, mais parlons-en.
Gentil.
Exactement. Non, mais ce qui est marrant surtout, c'est que en fait, les plus grosses questions pour l'instant, elles sont sur. Mais c'est la même chose pour chaque histoire, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas d'argent, tout va bien. À partir du moment où les gens peuvent gagner de l'argent et que du coup il y a procès potentiel, il y a droit, il y a une personne plutôt qu'une autre qui a pensé une idée et qui s'est fait voler son idée, etc. Là, les problèmes commencent à arriver. Donc moi, j'assiste à des situations où carrément par exemple les pôles musicaux et les pôles de développement d'intelligence artificielle sont séparés complètement et ils n'ont pas le droit de. Les gens qui ont des labels n'ont pas le droit d'envoyer de la musique aux gens qui ont de l'intelligence artificielle qui les développent. Et ça pose une grosse question parce que moi, en tant qu'être humain, si demain je fais une musique, ma musique elle est inspirée d'autres musiques. Elle est quelqu'un qui dessine, quelqu'un qui fait une œuvre, c'est forcément inspiré par d'autres œuvres qu'on a connues. Et à partir de quel moment. On peut ou pas nourrir une intelligence artificielle avec des œuvres, sachant que, effectivement, moi, ma capacité à absorber ces œuvres, elle est limitée en tant qu'être humain, alors qu'une intelligence artificielle, demain, elle peut avoir mis tout Spotify en deux secondes dans son truc, quoi. Et la seule chose que je peux dire pour un peu... prendre garde, c'est que pour l'instant, à la tête de ces innovations, il y a les Chinois qui vraiment, en termes d'émulation de voix, de trucs, les trucs qu'on entend, les faux Drake, là, les faux, je sais pas quoi, The Weeknd et tout, tout vient de chez eux. Et je peux vous dire que eux, les questions de droit, ça les gêne un tout petit peu moins que nous.
Ouais.
Et je pense que du coup, leurs IA, elles vont être moins gênées par ça. Et malheureusement, elles vont être un petit peu plus puissantes, quoi. Donc, ça pose des vraies questions sur la propriété intellectuelle et le fait que ça bloque ou pas le progrès. Mais bon, on est dans des questions très techniques et pas éthiques.
Mais pourquoi pas ? Moi, je trouve que
j'allais poser une question politique, mais vas-y.
Mais pour moi, la question de la propriété intellectuelle, c'est autre chose, parce qu'en fait, des conflits, il y en a eu en Europe, aux États-Unis, et puis en fait, on s'est toujours pompé, quoi. On s'est toujours.
Moi, je dis juste un truc deux secondes. Je me souviens d'une phrase géniale d'un mec, un américain, donc eux ils sont dans un autre délire, tu vois, au niveau droit et tout, et c'est une toute petite compilation un peu indépendante où donc on sample de la musique des fois, tu vois, qui vient d'autres gens, et il se trouve que une des tracks qu'on avait bossé ensemble, il y avait un sample de Snoop Dogg dedans, et je lui dis mais quand même là ça craint un peu, quoi, il y a un sample de Snoop Dogg, on va pas sortir ça et tout, s'ils nous attaquent en justice, qu'est-ce qu'ils parlent, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il me regarde, il me fait, mais t'as rien compris, c'est génial, si demain Snoop Dogg nous attaque en justice, c'est le meilleur truc qui puisse nous arriver et tout.
Bien
quoi.
Sûr,
et il m'a trop fait rire. Quoi.
Et ce que tu racontes, alors ça me fait penser à un bouquin dont je ne connais plus le titre, mais par contre je me souviens de l'auteur, c'est l'inverse de Gwendo en fait. Il y a un vieux bouquin des années 70 de William Gibson, un maître de la SF américain, qui est typiquement sur ce sujet, c'est-à-dire on invente un robot qui est capable de créer des tubes.
Neuromancia.
Non,
c'est celui qui a écrit ça, je crois, Neuromancer, mais c'est pas ce.
Ouais, c'est pas ce roman-là, ouais. Et donc, c'est drôle parce que ça parle de ça. Mais moi, j'ai l'impression que les maisons de disques, les majors en tout cas, c'est déjà des machines à pomper.
Ils se copient déjà tous les uns les autres. Il y avait une étude qui avait été faite où ils regardaient le top 10 Billboard mondial. Et ils avaient constaté qu'il n'y avait aucun morceau qui était à 100% une création originale. Ça veut dire que dans tous les morceaux du top 10, il y avait un refrain qui venait de tel tube 90s, il y avait une ligne de basse qui venait de tel machin, une top line, donc une ligne de voix qui venait de tel... Mais en fait, c'était que du recyclage. Et moi, alors un mec très cynique, un pote à moi qui est à fond dans les IA, lui, il me dit... Eh ben, tu sais quoi, ça tombe bien, la musique, ça fait 10 ans que c'est sclérosé, qu'il n'y a plus rien de nouveau qui se crée. Peut-être que ce. Et au final, les vraies dernières innovations technologiques, elles ont débloqué la musique dans les années 90. C'était incroyable les nouvelles musiques qu'il y a eu et tout. Et c'est vrai que depuis l'ordinateur, depuis, on va dire, 2005, 2006, elles ne sont pas inexistantes, les progrès, mais ils sont très lents, très associés à des modes, il n'y a pas eu de grande révolution quoi, depuis l'autotune et tout ça. Et il me dit, bah, peut-être, tu sais quoi, qu'avec une révolution technologique aussi radicale, peut-être qu'on aura des nouveaux courants qui vont apparaître enfin, alors que ce n'est pas arrivé depuis 10 ans. Quoi.
C'est un peu ce que soutient Étienne Mineur, justement, lui qui est dans une approche plutôt graphique design, mais en fait, c'est un peu l'idée. Et moi, ce qui m'amuse quand je nous écoute, notamment quand Frisson se prétend être une radio assez gaucho-gauchias.
Non, c'est pas.
Ne m'interromps pas. Ce qui m'amuse là-dedans. C'est le fait qu'en gros on disserte sur la question du droit d'auteur et en fait je me dis bah, quand on parle de droit et de propriété artistique, finalement on parle de propriété et donc est-ce qu'on n'est pas un peu loin aussi d'une considération anticapitaliste? C'est à toi que je m'adresse Guillaume quand je dis ça, même s'il va falloir repasser très rapidement la parole à Cannes pour se dire, bah, pas le festival, hein, l'artiste invité.
Salut.
Merci. Mais bref, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de caduque dans nos modes de pensée? Parce qu'à l'heure actuelle, si on défend autant la question du droit d'auteur, c'est parce qu'en fait, il y a une mésestimation et qu'il y a une différenciation trop grande entre le travail libre, le travail salarié, qu'est-ce qu'un métier, qu'est-ce qu'on n'est pas un autre. Enfin bref, enfin, la vision du travail est quand même un peu ok-boomée par les révolutions technologiques et les mutations sociales actuelles. Mais aujourd'hui, on est encore en train de se défendre entre un modèle, tu vois, d'économie mixte à la française et un modèle purement néolibéral, anglo-saxon, voire un modèle qu'on connaît nous encore moins, mais que toi, tu as l'air d'appréhender, Cannes, notamment avec tes relations
sino-américaines.
Sino-américaines, si je puis m'exprimer ainsi. Et que globalement tout ça ne participe juste que d'une conception, de se dire bah voilà, quelle est la place du capitalisme en fait à l'endroit de la production musicale, parce que si c'était pas à la défaction des individus, finalement la question de la propriété un peu intellectuelle, moi je te rejoins totalement quand tu dis mais en fait on est personne et on ne va nulle part, nous ne sommes que le fruit d'un déterminisme social et de nos environnements et en fait on ne crée jamais rien sans rien. Oui, bonsoir, vous êtes bien sur France Culture.
T'aurais pas de la weed pour nous.
Il n'y a pas de la weed, il n'y a pas de weed, c'est juste d'avoir un intellectuel compensatoire. Mais vous pouvez pas comprendre. Excuse-moi, ils sont véreux parce que je suis moins conne qu'eux, alors que c'est moi, alors je suis censée être l'idiote utile de cette émission. Et forcément, dès que je l'ouvre un peu, ça leur fout les boules. Mais je te repasse la parole parce que sinon, ils vont te la couper comme à moi. 37% de fois plus.
Selon les statistiques. Voilà. J'essaye de répondre très rapidement. Je vais essayer de qu'on en parle pas 10 000 ans, comme ça on peut réécouter une petite musique derrière et reparler un peu de musique. Mais je pense que le centre du problème, il est que les gens, c'est une industrie où ben la musique, tu galères, c'est hyper dur de que ce soit rentable. Et puis c'est même une passion que tu fais souvent à côté de ton vrai métier ou de ton vrai, je sais pas, tes vraies études, on va dire, pour les plus jeunes. Et d'un coup, ça marche. Et là, paf, c'est la fête, quoi. Et le problème, c'est qu'on est dans une situation où c'est les gens pour qui ça marche vraiment très, très, très bien, qui forcément sont obligés de se protéger entre eux, de s'attaquer en justice entre eux, etc. Et qui, eux, décident des règles. Et les règles sont les mêmes pour le tout petit gars moi, je vois des aberrations. Par exemple, quand on commençait à faire de la techno, je te mets un exemple tout simple. Tu vois, on fait de la techno, on dépose nos titres à la SACEM. La SACEM, ça marche de telle manière que tu as 50% sur l'instru et 50% sur la voix. Ouais. C'est fait comme ça. C'est-à-dire que même quand t'es un
Jean-Jacques Goldman.
Lui, c'est très bien pour lui. Mais quand t'es un gars qui fait de la techno, moi je me souviens d'une situation où on était plusieurs à produire la musique et il y avait une seule personne qui écrivait les paroles et cette personne-là, elle touchait les mêmes sous que nous quatre divisés en quatre à l'époque du Club Cheval. Et ça, pour de la techno, c'est pas normal, par exemple.
Alors en fait, c'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai que la SACEM fait croire que les usages sont le droit. Donc les usages sont tels que tu l'as décrit, mais le droit, c'est pas du tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, la question de la propriété intellectuelle, ça existe en musique comme en industrie ou quoi que ce soit, c'est la même histoire que les brevets, c'est une idée appartient à une ou plusieurs personnes. Donc tu peux très bien dire que la personne qui a écrit le texte détient 10% de la valeur du morceau. Et avant de passer la musique, je voulais dire qu'il existe aussi une licence art libre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réfutent complètement le fait qu'une idée puisse appartenir à quelqu'un. Bon, des notes, il n'y en a pas beaucoup, hein, finalement.
La Creative Commons, qui est la plus connue, je pense.
Ouais. Alors, Art Libre, c'est encore différent de Creative Commons, mais...
D'accord.
Voilà, il y a des gens qui créent un texte, une musique, quoi que ce soit, et qui autorisent tout le monde à en faire usage sans qu'il y ait de droit d'auteur. C'est le capitalisme aussi qui dit que tout peut s'acheter et se vendre. Qu'est-ce que tu veux nous proposer comme morceau? Parce qu'on arrive au terme.
C'est vrai qu'on arrive au terme. Et alors qu'est-ce que je pourrais mettre? Je regarde du coup ce que j'ai mis dans la playlist.
Pendant que tu checkes ton smartphone, on va dire aux gens: allez donc au Stunfest, ça commence, c'est commencé ce soir, c'est jusque dimanche. Il y a donc des ateliers, des performances, des concerts, des expositions de jeux indés,
des game concerts,
des speedruns et aussi...
On pourrait parler d'un vieux jeu qui s'appelait Machinarium.
apparemment, on pourrait aussi parler d'un vieux jeu qui s'appelle le Machinarium. Il faut que tu me fasses ma doublure voix... toi jeune à la gapette et si j'ai des amis qui m'écoutent, Dieu sait que je n'aime pas les gapettes, donc je vais lui passer la parole parce que voilà, on a dit pas droit aux moches, pas droit aux gapettes.
Ah, moi, on devait pas écouter la musique.
Mais si. C'est quoi ton morceau?
On va l'écouter juste après Machinarium, peut-être.
Oui, Machinarium.
Très 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 vieux jeu, mais très rigolo et hyper designé. Et alors un vieux 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 jeu aussi, vous connaissez tous hein, les geeks.
L'Odyssée d'Ab.
Ça, c'était incroyable comme jeu.
C'est vrai,
pure aventure. On passe et on allait. Pourquoi? Qu'est-ce que c'était, quoi le but? Tu te rappelles
de quoi, de cette intervention? Je sais pas, mais elle est magique. Non, en tout cas.
Mon intervention
carrément magique.
Non, mais dans les jeux vidéo, c'est quand même une aventure. Tu traverses des univers, des mondes, et si la musique est avec toi, ben ça t'accompagne.
Voilà. Et donc que la musique soit avec nous.
Et quand la musique est bonne, c'est encore mieux. Quoi.
Allez,
incroyable.
Bon alors, du coup, tu nous as
alors,
choisi quoi?
Alors peut-être. Alors. Peut-être aller un petit dernier histoire de rester un petit peu dans ce thème dans ma playlist que tu as Star Cluster Collector de Cornelius. Tu le vois ou pas?
C'est bon, je l'ai.
C'est un, je vais présenter rapidement. C'est un japonais qui utilise beaucoup la technique de la polyrythmie, donc des nombres de temps irréguliers dans des mêmes structures rythmiques. Ça s'écoute, ça s'explique pas, j'ai envie de vous dire, voilà. Et ça vient d'une des BO d'une des séries Ghost in the Shell. Donc voilà, comme ça on rejoint avec un peu la culture animée, jeux vidéo, etc. Et voilà, c'est un artiste que j'adore qui bosse avec une franchise que j'adore. Donc je pense que ça peut être une bonne musique de fin.
Bon Ludo, tu te rappelles, hein, Altered Beast?
Bon concert à toi, Ken Blaster.
Merci. Ouais, merci beaucoup.
Et cœur, bisous les amis, à la semaine prochaine.
Oh putain, j'étais aux toilettes, mais bisous tout le monde. Bisous tout le monde.
Et Ludo, il danse la film.
Bisous Suzy, bisous Chloé.
Souhaite une bonne journée. Pôle emploi vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Pôle emploi vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Pôle emploi vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Pôle emploi vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Pôle emploi vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Pôle emploi vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Pôle emploi vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Pôle emploi vous remercie et vous souhaite une bonne journée.